Europe Matin,
le 5-7.
Théo Manval.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil. Bienvenue sur Europe 1, votre 5-7 démarre en direct avec toute l'équipe, Ombline Roche et Martin Lange. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Nous sommes le mardi 18 mai et le monde de la télé est en train de changer.
Le groupe M6 confirme sa fusion avec le groupe TF1 pour former un géant de la télévision. Bouygues devient l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité avec 30% des parts.
Une fusion entre TF1 et M6, les deux plus gros groupes de la télé privée en France, qui crée donc un géant qui va poser 70% du marché publicitaire. C'est un Big Bang qui pose beaucoup de questions, soumis d'ailleurs à des conditions en termes de concurrence. Ce sera le premier titre du journal de 5 heures dans un instant. Au programme également ce matin, Martin Lange, qu'avez-vous repéré pour nous?
Le réseau social ultime, une nouvelle plateforme où les abonnés décident pour vous vos habits, vos repas et même vos choix professionnels.
Mon Dieu.
On se croirait dans un film, mais non, c'est bien réel.
La partition, Blin Roche, qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
En recherche perpétuelle d'un son authentique, comme un retour à la terre, les racines du blues et du rock, cela fait 20 ans que ça dure, le groupe de Black Keys.
Un duo iconique dans la partition avec Ombline Roche, ce sera à 6h25. Mes invités pour ces 2 heures d'info, journée spéciale impôts aujourd'hui sur Europe 1. Tout ce qu'il faut savoir pour bien remplir votre déclaration de revenus en cette année particulière. Chômage partiel, aide, nouveaux dispositifs. On décortique tout ça pour vous à 6h40 avec mon invité Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Avant ça, à 5h40, l'un des festivals les plus populaires de France, les Vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne. Festival maintenu du 8 au 18 juillet avec un protocole sanitaire très strict et une nouvelle scénographie pour coller aux mesures sanitaires. Nouveau décor que vient nous dévoiler le patron du festival, Jérôme Tréorel, sera avec nous dans 40 minutes. À 6h20, on se glissera dans le cerveau de Roger Federer avec l'invité inattendu. La légende suisse du tennis retrouve aujourd'hui la terre battue 2 ans après son dernier tournoi sur cette surface. Préparation évidemment pour Roland Garros dans 2 semaines. On sera avec l'un de ses anciens partenaires d'entraînement qui sort un livre pour nous aider à agir et penser comme Roger Federer. On a plein de choses à apprendre. Et puis, jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous mènera du Chili au Canada, en passant par les États-Unis. Voilà le programme. Bon réveil. D'abord, le temps de ce mardi. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Théo, bonjour à tous. C'est une journée au temps vraiment chaotique, hein, telle que nous le connaissons depuis maintenant, bon, presque 3 semaines ou 1 mois. C'est une journée avec des averses, des orages, des éclaircies, enfin bref, tout sur la moitié nord, alors que les pluies seront un peu plus présentes sur les régions du sud aujourd'hui. Et les températures entre 14 et 20 degrés, ça ne change pas beaucoup.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Très bon réveil, votre journée démarre avec un premier journal, on écoute Le Monde changer. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h.
Pour exister face aux plateformes, face aux GAFA, la fusion annoncée hier soir de TF1 et de M6, l'ensemble attire les 3/4 du marché publicitaire à la télé et l'autorité de la concurrence forcément se penchera sur le berceau du futur groupe. Dans ce journal aussi, les réouvertures J-1 avec des commerçants dans les starting blocks et des fournisseurs de terrasses en bois débordé par la demande des cafés et des restaurateurs. Un tour de France politique à partir de demain. Emmanuel Macron de retour sur le terrain à 1 an de la présidentielle. Et puis un nouveau musée au cœur de Paris. Visite en avant-première de la Bourse de commerce où François Pinault présentera dès samedi sa collection d'art contemporain.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera en Bretagne ce matin chez notre éleveuse laitière Charlotte de Kerglonou pour les doigts dans l'assiette. Très bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un mastodonte qui va voir le jour. L'annonce a été faite hier soir. TF1 va fusionner avec le groupe M6 qui était à vendre depuis plusieurs mois. Une opération qui va toutefois mettre un peu de temps à se concrétiser, hein, Emmanuel Dutheil.
Alors les signatures sont encore fraîches. Les contrats ont été signés hier soir au terme d'un week-end très actif selon un des participants. Sur le papier, c'est le deal du siècle, hein, dans le monde des médias en France. À l'heure de la concurrence de Netflix et d'Amazon, c'est la naissance d'un groupe gigantesque présent sur tous les marchés. La radio avec RTL, la production de séries, 10 chaînes gratuites dont TF1, M6, TMC ou encore Gulli, des sites internet comme Doctissimo, des sites de replay, de VOD, etc. Mais c'est là que les problèmes commencent. la loi est très claire. Il n'est pas possible pour un même groupe d'avoir plus de 7 chaînes. Il va donc falloir en vendre 3. Officiellement, le choix n'est pas encore fait. Le nouvel ensemble va représenter par ailleurs un tiers de part d'audience télé et les 3/4 du marché publicitaire. Là aussi, ça devrait faire tiquer. L'autorité de la concurrence doit se décider à l'été 2022. Si cette opération historique devait être finalisée, le rapprochement aurait lieu fin 2022. Et c'est Nicolas de Taverneau, l'actuel patron de M6, qui prendrait la tête de l'ensemble.
La précision signée Emmanuel Duteil pour Europe 1.
À la veille de la réouverture des terrasses, elles continuent de fleurir un peu partout, notamment en ville. Les terrasses en bois des cafés et restaurants qui font le bonheur des spécialistes des aménagements extérieurs.
Oui, comme l'entreprise Vosges Thermobois installée près de Gérardmer. Depuis plusieurs semaines, les 7 salariés y travaillent d'arrache-pied. Rencontre avec Arthur Mbaché pour Europe 1.
Là, ça va pour un resto, là. Il vient récupérer les chaînes tout à l'heure.
Des planches. Entre 600 et 800 mètres carrés de terrasses produits chaque jour. Ici, le bois est traité par les équipes de Charles et Sabrina grâce à un immense four.
Mariola va rentrer dedans.
Traitement contre l'humidité, les champignons, les insectes. Et évidemment aussi le verre de bière que vous allez renverser dès demain soir.
Comme une chaudière en fait, on a 3 énormes brûleurs avec la ventilation qui brasse l'air et qui va le monter jusqu'à 237.
Les patrons de bars et les restaurateurs appellent sans arrêt, le carnet de commandes de Vosges Thermobois déborde.
On a plein de travail. Alors,
ah oui, pourvu que ça dure.
C'est de 5h du matin jusqu'à 21h le soir. Bah moi ça fait 11 ans que je suis là, on n'a jamais fait ça, jamais.
Du coup, des commandes en terrasse depuis février, on a dû en sortir une centaine. Quoi.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les restos qui vous appellent ?
Il faut se dépêcher, oui. On a besoin demain.
Et du coup, c'est quoi les délais si je vous demande une terrasse maintenant ?
Entre 6 et 8 semaines, non.
Ça vous laisse le temps de choisir la variété pour du pain des Vosges, par exemple. Ça coûte 28 euros le mètre carré. L'Aveline devant Bruyères, Arthur Mbaché, Europe 1.
Demain aussi, réouverture des surfaces commerciales de plus de 20 000 mètres carrés. Depuis le 31 janvier, seuls les commerces alimentaires y étaient ouverts. Mais dans un peu plus de 24 heures, les magasins de tout type, vêtements, jouets, beauté, vont pouvoir rouvrir. Reportage dans une galerie marchande du nord de Toulouse avec le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter.
On commençait à avoir tout le temps les mêmes têtes, donc ça va nous faire du bien, je pense, à tous. Juste de voir des gens, déjà.
C'est l'heure des dernières finitions dans cette enseigne de sport. Anissa replace les rideaux des cabines d'essayage et Jessica, sa collègue, fixe les bouteilles de gel hydroalcoolique.
Pour que tout soit opérationnel pour les conditions sanitaires, moi j'ai hâte de pouvoir réconseiller, surtout sur le sport, ou y avoir matière à échanger, à conseiller. Enfin, on va se sentir utile, ouais.
Depuis la fermeture, il a fallu changer toute la collection. Jacques Coppol, le gérant de ce magasin Intersport, s'attend à recevoir du monde dès mercredi.
La zone saisonnière va être très très importante. Donc avec les tongs et toute la partie maillot de plage, tout ce qui est lié à la saison. Ces deux univers-là effectivement vont générer du flux.
Dans les 40 boutiques de cette galerie, chacun se prépare et le directeur du centre commercial, Quentin Magarigue, a mis en place un tout nouveau protocole.
On a un fléchage pour indiquer aux clients des sens de circulation. On a des bandes de distanciation en cas de trop nombreux clients devant les boutiques et on a un outil de comptage en temps réel. Donc en temps réel, on sait combien de clients sont présents sur le centre pour justement respecter cette jauge.
Et cette réouverture pourrait bien être l'occasion aussi de faire de bonnes affaires puisque beaucoup de commerçants affichent des prix cassés sur leurs invendus des derniers mois. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et au-delà des commerces, les parcs d'attractions se préparent aussi à rouvrir. Ce sera le 17 juin pour Disneyland, le 9 juin pour le Futuroscope et le parc Astérix.
Avec évidemment un protocole sanitaire très strict comme l'a détaillé hier soir dans le journal de la nuit Delphine Ponce, la directrice générale du parc Astérix.
Nous accueillerons nos visiteurs avec un parc au complet. Donc avec nos 42 attractions qui leur seront proposées et avec évidemment la mise en place d'un protocole sanitaire assez strict pour favoriser la sécurité sanitaire de nos visiteurs et de nos collaborateurs. On espère accueillir un maximum de visiteurs. Sur les premiers temps et notamment sur le mois de juin, on va mettre en place une jauge de façon à assurer l'expérience du parc Astérix en toute sérénité. Et puis ensuite, à partir du 30 juin, qui est la troisième étape de déconfinement, a priori, nous n'aurons plus de jauge et nous espérons accueillir un maximum de visiteurs.
Delphine Ponce, la directrice générale du parc Astérix, invitée hier soir du journal de la nuit sur Europe 1.
Et à la faveur des réouvertures, lui va reprendre son bâton de pèlerin. Jean-Rémy Baudeau, Emmanuel Macron va entamer demain un nouveau tour de France politique.
Oui, demain, après le Conseil des ministres, Emmanuel Macron retournera sur le terrain. Un déplacement sur la thématique des réouvertures de ce mercredi, a priori à 2h de Paris. Ce déplacement sera le premier d'une longue série. Jusqu'à l'été, le chef de l'État prévoit 1 à 2 déplacements par semaine, des échanges sans filtre avec les Français, selon son entourage, qui théorise un moment d'écoute pour reconstruire le pays. Au programme, visites, réunions publiques et surtout bains de foule. Ça va être intense, mais ça lui manquait trop, sourit un conseiller. Est-ce le retour du grand débat? Non, répond un proche d'Emmanuel Macron. Ça ne sera pas 600 maires dans un gymnase, affirme-t-il. Chef d'entreprise, élus locaux, associatifs, l'idée cette fois est d'aborder les sujets de la relance économique et sociale. Mais en réalité, il s'agit pour Emmanuel Macron de reprendre le pouls du pays, de tenter d'imposer son agenda et d'occuper le terrain pendant les régionales. Comme un petit air de campagne présidentielle qui ne dit pas son nom.
Explication de Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1. Les listes pour les régionales sont déposées, mais chez les Républicains, l'épisode muselier en PACA n'est peut-être pas terminé. 15 marcheurs affichés aux côtés du président sortant de la région. Comité stratégique du parti aujourd'hui. Dès hier, la fédération LR des Alpes-Maritimes, emmenée par Éric Ciotti, a retiré son soutien au candidat.
Il est 5h07 sur Europe 1. Qui a dit que le travail, c'était la santé? Une étude de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail tente à prouver, Marion Calais, les limites de cette affirmation.
Et oui, parce qu'au-delà de 55 heures par semaine, les risques d'accidents cardiovasculaires augmentent significativement pour Europe 1. Virginie Salmen.
Les scientifiques ont comparé des gens qui travaillent plus de 55 heures par semaine à ceux qui ne vont pas au-delà des 40 heures. Résultat, le risque d'AVC augmente de 35% pour les travailleurs dont les semaines s'allongent, femmes et hommes, tous métiers confondus, et le risque d'infarctus de 17%. En pleine pandémie, c'est le moment de prendre des mesures pour structurer le télétravail qui s'est généralisé, estime la directrice du département santé à l'OMS, le docteur Maria Nera.
Il faudrait que le télétravail soit bien réglé, qu'on arrive à dissocier la vie professionnelle et la vie privée et qu'on ne fasse pas comme on a fait jusqu'à présent, qu'on a des estimations comme quoi on a augmenté au moins de 10% au niveau professionnel sans séparer, sans avoir une vraie séparation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les experts de l'OMS sont d'autant plus inquiets que le nombre de personnes qui dépassent les 55 heures par semaine est en augmentation. Elles représentent désormais près de 10% de la population mondiale.
Virginie Salmen. Offensive diplomatique pour tenter d'apaiser la situation au Proche-Orient. La France avec l'Égypte mobilise la Jordanie. L'ONU passe aussi par le Caire et le Qatar. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité est prévue aujourd'hui.
Enfin, il avait déjà deux musées à Venise. Cette fois-ci, François Pinault peut présenter sa collection d'art contemporain en France.
Et oui, samedi sera inaugurée la Bourse du Commerce à Paris. Un écrin qu'a visité Diane Chenouda pour Europe 1.
Sous l'immense coupole de verre 19e, dans la rotonde baignée de lumière, une première œuvre forte, la réplique d'une sculpture de la Renaissance, qui est en fait une gigantesque bougie qui va se consumer au fil des mois. Des sculptures, dessins, photos, vidéos, installations sonores, oui, mais l'accent a été mis sur la peinture. Jean-Jacques Ayagon, le conseiller de François Pinault.
La peinture, c'est sans doute le genre qui est le plus accessible au plus grand nombre. D'autre part, beaucoup de ces peintures se réfèrent à des thèmes figuratifs et donc à des thèmes facilement compréhensibles par chacun.
Oui, des œuvres qui nous parlent à tous, confirme Martin Bétonneau, le directeur de la Bourse du Commerce.
Je crois que l'un des messages de cette collection, c'est que l'art peut parler à tout le monde. Les œuvres d'aujourd'hui sont en prise directe avec les problématiques de notre temps, avec les questions politiques, les questions sociales, les questions raciales, les questions de genre. L'art contemporain, ça parle à tout le monde parce que ça parle de ces sujets qui sont le quotidien de tout un chacun.
Un nouveau temple de l'art, idéalement placé au cœur de Paris, qui suscite déjà beaucoup d'intérêt, puisque tous les week-ends sont complets jusqu'à fin juin.
Mais de l'importance de réserver à un tiers du public, jauge réduite en raison des conditions sanitaires, la Bourse de Commerce qui sera adossée aussi à un restaurant tenu par les chefs aveyronnais Sébastien et Michel Brasse.
Il faudrait être un petit peu patient. Merci, c'était le journal de Marion Calais. Il est bientôt 5h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et le journal des sports, c'est avec vous, Cédric Chasseur. Bonjour Cédric.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
On démarre avec du foot et la très attendue liste de Didier Deschamps pour l'Euro.
Fin du suspense ce soir sur les coups de 20h20, une annonce qui sera faite dans les journaux de 20h de TF1 et de M6. Le sélectionneur des Bleus, qui aura un peu plus de latitude que d'habitude, puisqu'il a le droit à une liste élargie de 26 joueurs en raison de la situation sanitaire. Et elle pourrait être encore plus large d'ailleurs s'il fait appel à des réservistes. Alors à quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'il y aura des surprises? Voici l'avis de notre consultant Laurent Fournier, qui verrait bien revenir un certain Karim Benzema.
Je pense que ça va être classique dans la lignée de ce qu'a fait le sélectionneur depuis le début, avec tous les matchs de qualification. Après, moi j'aimerais bien revoir Karim Benzema, amener un peu de talent et de technicité dans cette équipe serait bien. Je crois que sur le mérite et sur ce que a fait Karim Benzema depuis le début de saison, ça serait mérité qu'il représente l'équipe de France.
Laurent Fournier au micro de Cyril de la Morinerie.
C'est effectivement une rumeur qui est en train de prendre de l'ampleur. On y reviendra dans le pressing tout à l'heure. Foot toujours, Cédric, avec les clubs de Ligue 2 qui disent non à une modification du format des compétitions.
Alors que le conseil d'administration de la Ligue se réunit demain, les représentants des formations de deuxième division refusent pour le moment de voir la Ligue 1 et la Ligue 2 passer de 20 à 18 clubs. C'est le souhait du président de la LFP, Vincent Labrune. Écoutez par exemple ce qu'en pense Jean-Pierre Skouarnec, le président de Dunkerque.
Aujourd'hui, on remarque quand même que les finalistes des coupes européennes sortent de championnat à 20 clubs. Ça, c'est un fait. Et on remarque aussi qu'au niveau des droits télé, il n'y a pas de baisse dans les autres pays européens, hormis en France. Alors, il faut peut-être se poser les bonnes questions, mais sur le fond, s'il y a des raisons valables et des raisons complètement sensées pour le faire, moi, j'y verrai pas d'opposition.
Jean-Pierre Skouarnec, le président de Dunkerque, interrogé pour Europe 1 par Julien Froment. Et puisque l'on parle de Ligue 2, début ce soir des pré-barrages d'accession à la Ligue 1 avec le match entre Grenoble et le Paris FC. Coup d'envoi à 20h45.
On termine, Cédric Chasseur, avec la MotoGP qui se part de bleu-blanc-rouge depuis le début de saison.
À l'image du podium du Grand Prix de France au Mans dimanche, où figuraient deux Français, Fabio Quartararo qui est le leader au championnat du monde et Johan Zarco, troisième, jamais vainqueur mais toujours placé, le pilote Ducati s'en contente pour l'instant.
Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le classement général. Il faut quand même viser la victoire parce que c'est le meilleur des objectifs pendant le week-end pour faire du bon travail. Mais ensuite, d'après moi, elle arrivera quand je serai parfaitement prêt pour la voir. Et tant que je fais des deuxièmes places et que j'engrange des points en championnat, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important.
Johan Zarco au micro d'Axel May. Prochain Grand Prix de MotoGP dans deux semaines en Italie sur le circuit du Mugello.
Merci Cédric Chasseur, à tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
À 5h14, place aux courses. Avec vous Thierry Léger, bonjour.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 804 Courcard. Quatrième d'un handicap similaire, le 1er mai sur le parcours qui nous intéresse, alors qu'il n'était certainement pas encore à 100% de ses moyens. Je sais qu'il va se présenter cette fois au summum de sa condition physique et avec l'aide du terrain très souple sur lequel il vaut quelques longueurs de mieux, il peut être considéré ici comme un coup sûr absolu à l'arrivée. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 4, Courcard.
Le pari gagnant signé Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes, Thierry, pour les pronostics du Quintet.
Europe 1, Théo Manval.
L'essentiel à 5h15 et c'est un géant pesant plus de 3 milliards d'euros qui va voir le jour. TF1 va fusionner avec le groupe M6 qui était à vendre depuis plusieurs mois. Un rachat sur lequel l'autorité de la concurrence doit encore se prononcer. Au moins 5000 migrants arrivés par la mer dans l'enclave espagnole de Ceuta au nord du Maroc. Un chiffre inédit et qui pourrait encore augmenter. Le ministère de l'Intérieur espagnol annonce le déploiement de 200 agents supplémentaires. À la veille d'une nouvelle étape du déconfinement, l'optimisme du ministre de la Santé. Olivier Véran l'assure, bientôt le masque en extérieur ne sera plus obligatoire. En tout cas, si la circulation du virus continue de baisser. Taux d'incidence nationale sous les 150 cas pour 100 000 habitants sur une semaine complète. Enfin, quel groupe pour l'Euro de foot à partir du 11 juin prochain? Didier Deschamps dévoilera sa liste ce soir. Le sélectionneur qui devrait s'appuyer notamment sur un noyau dur d'une quinzaine de champions du monde, dont Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ou le gardien Hugo Lloris.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par un coup d'œil à la une de vos journaux. Et la veillée d'armes avant le déconfinement demain qui occupe presque tous vos quotidiens en région. À table se réjouit la Provence qui fait le point sur les règles strictes pour la réouverture des restaurants. Quelle sera votre première séance ? S'interroge la République des Pyrénées qui vous propose sa sélection des films à voir parmi le large choix. C'est vrai qu'il y aura embouteillage après 6 mois de fermeture des cinémas. Les commerces également dans les Starting Blocks, titre l'Alsace, pendant que le Progrès ose quand même la question. Est-ce vraiment raisonnable ? Reportage à l'appui dans le service de réanimation de la Croix-Rousse à Lyon, où les soignants restent sur le front, dit le journal. Libération s'interroge également. Est-ce vraiment l'heure de trinquer ? Météo capricieuse, jauge peu rentable, manque de main-d'œuvre. Libé liste les points d'interrogation qui persistent, notamment pour le secteur de la restauration. Parmi les autres grands titres, la fusion TF1-M6 fait également la une du Parisien aujourd'hui en France. La fronde des préfets s'affiche en grand dans le Figaro après l'annonce de réforme de la formation de la haute fonction publique. Et puis les sports. Et si on avait une surprise ce soir dans l'annonce de la liste des 26 bleus retenus pour l'Euro de foot par le sélectionneur Didier Deschamps, un retour de Karim Benzema qui réalise une saison fantastique avec le Real Madrid ne serait plus à écarter selon l'équipe et le Parisien. Benzema qui n'a plus porté le maillot bleu depuis bientôt 6 ans. Mais avec le Covid, on a des listes élargies à 26 joueurs cette année. Possibilité donc. Verdict ce soir autour de 20h. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Amblin Roche, on commence avec vous.
Et vous vous apprêtez peut-être à acheter un bien immobilier.
On l'espère.
Oui. Savez-vous exactement combien cela va vous coûter ? Car il n'y a pas que le prix affiché sur l'annonce de votre future maison ou futur appartement. Vous imaginez bien, il faut compter le montant du crédit, l'assurance,
oui,
les droits de mutation, c'est ce qu'on appelle
Tiens
en fait,
donc.
Ce sont les frais de notaire.
D'accord.
C'est le vrai nom des frais de notaire. L'apport personnel ou encore les frais de dossier de votre banque. Aujourd'hui, en France, dévoile ce tout nouvel indice de l'immobilier, tout compris, calculé précisément par le site Sologis en partenariat avec Empruntis. On a tendance à oublier, quand on recherche son nouveau logement, qu'il va y avoir des frais incompressibles. Et en fait, à Paris, le prix moyen du mètre carré affiché à 10 614 euros vaut en vrai 13 000 euros, c'est ce qu'il va réellement vous coûter, ce prix au mètre carré à
Déjà
Lyon.
Déjà que c'était pas donné.
Voilà. Oui, c'est vrai, ça plombe un peu l'ambiance. Il est de 7 000 euros à Lyon, 6 000 à Bordeaux, 5 500 à Nice. Alors aujourd'hui en France, on fait un petit tableau avec des cas concrets. Hein. Voilà, alors vous choisissez qui ?
Alors qu'est-ce qu'on choisit ?
Mehdi, 25 ans, qui investit dans son premier logement. Maëva et Hugo, trentenaires, ils achètent dans le neuf. Sonia et Philippe, quadra avec deux enfants, ils revendent pour acheter. Marie et Francis, couple de jeunes retraités. Ou Claire, 45 ans, qui achète seule après son divorce.
Le jeune couple ?
Maëva et Hugo achètent dans le neuf. En région parisienne, leur premier appartement, à 3 pièces de 60 mètres carrés.
Prix du bien. Félicitations.
Prix du bien avec travaux, pour mettre à leur goût. 216 360 euros. Leur revenu chaque mois est de 3 000 euros net, revenu du couple.
Ouais.
Ils ont 9 100 euros de côté, ce qui va leur permettre de payer la garantie hypothécaire, cette garantie financière exigée par la banque pour se protéger contre le risque de non-remboursement du crédit. Ils payent aussi les frais de notaire, alors c'est entre 2 et 3% du prix du bien
Pas
dans
plus.
Le neuf.
D'accord, dans le oui, neuf. Dans le neuf. Dans le vieux, c'est 7 ou
8%. 7% dans l'ancien, exactement. Et puis, il y a les frais de dossier. Ça, ils vont le payer. Maëva et Hugo n'ont pas d'autre apport, donc ils vont tout emprunter pour financer leur achat. Ils peuvent solliciter un prêt à taux zéro pour une partie sur 20 ans et il complète avec un prêt classique, 1,36% d'intérêt, donc assurance inclus, sur 25 ans. Et bien au total, l'opération d'achat immobilier de Maëva et Hugo revient à 251 362 euros. C'est 35 000 euros de plus que le prix affiché sur l'annonce immobilière. Voilà ce qu'ils vont payer pour leur bien immobilier. Combien ça va vous coûter lorsque vous achetez votre logement ? C'est la une d'aujourd'hui en France. Il y a plein de cas de figure différents.
Merci beaucoup, Amblin Roche. Je pense que ça servira à nombre de nos auditeurs. C'est une histoire d'eau qui m'a attiré l'œil, moi, ce matin. Vous avez déjà peut-être vu arriver dans les rayons de votre épicerie ou de votre supermarché ces nouvelles bouteilles d'eau, entre guillemets, de luxe, puisées au fond de la mer, issues d'icebergs ou carrément des nuages, soi-disant plus pures et vendu jusqu'à 10 fois plus cher que l'eau de source traditionnelle, eh bien Libération se penche sur ces eaux en apparence exceptionnelles pour en démonter les arguments marketing, analyse scientifique du CNRS à l'appui. Ces eaux de luxe nous vendent en effet l'idée d'une pureté d'abord. Et Libé de citer l'étiquette d'une de ces marques passées en revue, je ne résiste pas à l'envie de vous la lire. D'une extrême pureté car elle n'atteint jamais le sol. L'eau brise provient des brumes atlantiques qui couvrent les cimes des montagnes des Canaries, captées goutte à goutte.
C'est poétique en
c'est
plus.
C'est poétique, exactement. Ça fait à peine sourire la chercheuse du CNRS interrogée qui passe en revue la deuxième promesse de ces nouvelles marques, l'idée de propriété nutritionnelle décuplée. Promesse fallacieuse, balaie-t-elle la différence de teneur en minéraux entre ces eaux et l'eau en bouteille classique sont en réalité minimes. Rien qu'on ne trouve déjà ailleurs et parfois même moins de minéraux essentiels que dans l'eau du robinet, donc dans l'eau gratuite ou qu'on paye avec nos impôts. Alors comment est-ce qu'on explique que ces eaux connaissent aujourd'hui un tel succès en magasin ? Eh bien, le marketing, chers amis, rien que le marketing, des bouteilles dignes de flacons de parfum, dans une ère aussi où les posts Instagram nous incitent peut-être à valoriser toujours plus ce qui nous semble venir de lieux inatteignables ou inaccessibles. Sauf qu'en réalité, derrière la pureté qui est vendue, se cache une aberration écologique. Au Canada, des chasseurs tirent au fusil sur les icebergs pour en récupérer des fragments et les faire fondre et nous vendre cette eau 11 euros le litre, mais oui. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est parce que la banquise fond. En termes de pureté environnementale, on repassera. Enfin, l'eau des nuages de Tasmanie, elle, va faire un voyage de 15 000 km en avion pour arriver dans l'Hexagone. Bonjour, l'empreinte carbone. Conclusion de Libération, l'eau la plus respectueuse de l'environnement, c'est l'eau du robinet. Et en France, elle est de très bonne qualité. La mer à boire, L'. C'est-à-dire dans Libération ce matin. Martin Lange, on termine avec vous.
Oui, avec la guerre des étoiles qui continue au cinéma. Alors, je ne vous parle pas de Star Wars, non, mais de l'un des pans les plus mythiques de la guerre froide, de la conquête spatiale. Pendant des décennies, un Russe et Américain se sont tirés la bourre pour être les premiers dans l'espace, les premiers sur la Lune, les premiers dans l'ISS. Mm-hmm. Une bataille plutôt remportée par les Américains qui ont quand même marché sur la Lune. Mais les Russes ont décidé de prendre leur revanche au cinéma. L'année dernière, la NASA et SpaceX ont annoncé le tournage du premier film dans l'espace avec Tom Cruise en tête d'affiche. Et bien, figurez-vous que les Russes ont annoncé il y a quelques jours qu'ils lançaient un projet concurrent. Et évidemment, ils veulent partir avant les
Donc
Américains.
On va vraiment filmer, on va envoyer des acteurs qu'on va filmer dans l'espace,
dans
c'est quand même assez incroyable.
Exactement. Alors pour eux, pour les Russes, pas de Tom Cruise forcément, mais une femme comme héroïne, Yulia Peresild et un jeune réalisateur, Klim Shipenko derrière la caméra. Pour l'occasion, la Station Spatiale Internationale sera transformée en véritable studio de cinéma.
Incroyable.
Le film s'appellera Le Défi, un drame spatial visant à populariser les activités de la Russie, ainsi qu'à mettre en lumière la profession de cosmonaute. C'est encore un peu flou, mais ça ressemble quand même à de la bonne vieille propagande.
On peut tous les doubler, on dit à Thomas Pesquet de sortir son iPhone et de se filmer dans l'ISS, je pense qu'on est bien parti. L'annonce de ce tournage, en tout cas, Martin, marque un changement de stratégie de la part des Russes.
Exactement, pour l'agence spatiale russe, il s'agit de redorer son image. Roscosmos, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a perdu le monopole des vols habités vers l'ISS au profit de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, une perte qui se chiffre en dizaines de millions de dollars. Alors, elle se tourne vers le tourisme spatial et le cinéma pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses, en attendant peut-être une nouvelle station 100% russe dans les années à venir. Premier film dans l'espace, les Russes prennent Tom Cruise de vitesse, c'est-à-dire sur Slate.
Merci beaucoup Martin Lange et merci à vous Blin Roche. À tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Et de la Station Spatiale Internationale, on part à Essey à présent au sud de Rennes pour les doigts dans l'assiette où on retrouve notre éleveuse Charlotte Carglonou. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ça va.
Le jour n'est pas encore levé chez vous, comme sur toute la France. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était parlé, Charlotte, il y a 3 semaines, vous nous aviez raconté quelque chose qui a beaucoup ému ceux qui nous écoutent. L'arrivée d'un petit veau de votre vache javanaise, une vache qui était malade, qui avait un panaris, qui souffrait beaucoup et qui avait rejeté ce veau. Donnez-nous des nouvelles.
Bah oui, elle avait rejeté son veau au point où on avait dû enlever son veau parce que vraiment elle l'aurait tué en fait sur le moment parce qu'elle était vraiment très agressive avec et je l'ai vu lui donner des coups en fait. Donc on l'a retiré de sa mère presque aussitôt. Mmh. Et puis en fait, le lendemain, on a quand même emmené son veau, mais en le mettant de l'autre côté d'une barrière, en fait, et on l'a trait à la main, et on a donné à boire à son veau, et puis on a mis le veau de l'autre côté de la barrière, et on l'a laissé téter. Et elle était vraiment encore très agressive et tout ça, donc on a fait ça plusieurs jours d'affilée.
Mmh. Une sorte d'apprivoisement.
Bah oui, et puis après on l'a mis avec sa mère dans une case. Bon, on le laissait peut-être 20 minutes, une demi-heure, ça allait à peu près, mais c'était encore très moyen. Et puis en fait, petit à petit, et ben au fur et à mesure des jours, et ben elle a fini par l'accepter et par l'adopter. Et du coup, maintenant, elle est avec lui dans le champ là à côté. Et comme on peut pas trop la traire, on la traire à peu près 2-3 fois par semaine en fait pour la soulager parce qu'elle a plus de lait que ce que son veau a besoin.
Le veau tête quand même du coup. Elle l'allait.
Ah bah oui. Du coup, Ah bah là, du coup, oui, elle l'allait, ouais. Elle avait, enfin, il est dans le champ, là, il se gamba. Elle s'appelle Salsa, c'est une petite fille.
C'est une superbe histoire par rapport, parce que c'était quand même très très mal parti. Effectivement, vous aviez peur que cette vache folle de douleur, hein, il faut le redire, parce qu'elle était blessée à une patte, ne tue ce veau. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle est en train de guérir, qu'elle a moins mal, qu'elle est en train de s'acclimater un petit peu à sa progéniture, ou c'est, ça n'a rien à voir?
C'est un peu des deux, mais c'est surtout qu'elle a compris que son veau, c'était pas du tout une menace pour elle, en fait, quoi. Et qu'elle était quand même trop contente de le voir à côté d'elle. Ben là, donc, il y a aussi quatre autres petites génisses qui sont autour, mais elles qui sont sevrées, hein, qui boivent plus de lait, mais qui sont dans le champ tout ensemble. Et puis c'est vraiment trop mignon, du coup, de voir comment elle grandit et tout ça. Elle mange déjà de l'herbe, du coup, au bout de quelques jours, je la vois, la Salsa, broutée. Et du coup, je me dis que ça commence vraiment tout petit, quoi. D'habitude, en fait, on les sépare et du coup, ils mangent pas d'herbe aussi jeune dans leur vie, quoi.
Donc, on est ravis de voir que l'histoire se termine bien, en tout cas. Comment est-ce que vous la soignez, Javanèse, pour qu'elle finisse de se remettre de sa blessure? Parce que j'ai l'impression que c'est pas totalement terminé non plus.
En fait, on fait pas énormément de choses parce que vraiment, on préfère ne pas trop s'approcher de sa patte. Donc, on surveille s'il y a pas de pus ou quelque chose comme ça. Mais...
Ça peut se régler tout seul, un panaris comme ça pour une vache?
Je sais pas trop. Je vois qu'elle pose mieux sa patte qu'avant, mais je sais pas trop comment ça va. Comme elle vient en salle de traite, en fait, on peut quand même lui mettre un petit peu de cicatrisant et empêcher la plaie de s'accentuer. Mais je pense que c'est vraiment le temps qui fera les choses. Mais elle a l'air plutôt bien quand même, vraiment, quoi.
Bon, c'est une super nouvelle.
Oui, c'est une super nouvelle. Et puis, ce qu'on se dit aussi, c'est que si on a réussi à prendre le temps de faire l'adoption et de faire tout ça, c'est aussi parce que notre ferme, elle reste à taille humaine. Et,
voilà, 50 bêtes,
je le rappelle.
Et qu'on arrive
à prendre le temps de faire ça, quoi. Mmh. Et ça, c'est, pour des éleveurs, c'est aussi satisfaisant de se dire qu'on a le temps de prendre le temps de ça en plus du reste du travail, quoi. Et... Il n'y a qu'en gardant des tailles de ferme où le boulot n'est pas trop important.
C'est un autre des bénéfices de l'élevage raisonné. Merci beaucoup, Charlotte Carglonou, notre éleveuse laitière en Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup de nous avoir raconté la suite de l'histoire et on reviendra prendre des nouvelles de Salsa et Javanèse. Merci Charlotte, à bientôt.
Merci, au revoir.
Laurent Cabrol, un point sur la météo à 5h29. À quoi va ressembler cette journée?
Une journée incertaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur les régions de la moitié nord, nous allons avoir une alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses, d'orages, avec des vents de 40 km/h. Les vents baissent un petit peu, mais enfin les orages seront assez nombreux dans l'après-midi, notamment sur la région parisienne, la Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, l'Alsace et sur la Bretagne. Et puis sur les régions de la moitié sud, compte tenu de la différence que l'on peut espérer avec ces jours derniers, eh bien c'est sur la moitié sud qu'il pleuvra le plus. Espérez ou regrettez. Il pleuvra notamment dans tout le sud-ouest et sur le Limousin et l'Auvergne. Nous aurons également des pluies assez fréquentes en deuxième partie de journée. Sur la Méditerranée, contrairement à ces jours derniers, là, nous aurons un ciel voilé. Voilà, c'est pas folichon du tout, mais les températures restent exactement les mêmes. Elles sont tout aussi tristes ou nettes, entre 14 et 20 degrés. 14 degrés à Épinal cet après-midi, 14 à Nancy, 15 degrés à Bordeaux. Qu'a-t-il à Paris, 16 degrés, 16 à Lille, 16 à Poitiers, 17 à Rennes, 17 à Toulouse, 17 à Lyon, et puis 22 degrés du côté de Marseille. Voilà pour quelques-unes des valeurs qui seront aujourd'hui celles de l'après-midi et qui, ma foi, ne sont pas très sympathiques, vous l'avez compris.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
C'est vrai que le fait qu'on se soit tellement arrêté pendant longtemps, tout d'un coup reprendre le rythme à fond, c'est vraiment une joie intense.
Et la joie sera encore plus grande demain quand le rideau de la scène musicale va se lever après des mois de fermeture, J-1 avant la réouverture des théâtres, des cinémas et des terrasses. Pas de trêve en vue au Proche-Orient, les bombardements israéliens ont repris de plus belle sur la bande de Gaza. Le Hamas aussi maintient la pression avec ses tirs de roquettes. Et puis c'est une première, la Fédération française de rugby va autoriser des sportifs transgenres dans les compétitions officielles.
Dans 10 minutes, à quoi vont ressembler les vieilles charrues cet été? Vous parliez de réouverture. Vieilles vieille charrue maintenue du 8 au 18 juillet avec des restrictions sanitaires. Jérôme Tréorel, le directeur du festival, vient nous dévoiler sa toute nouvelle scénographie. C'est juste après ce journal. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On compte les heures avant la réouverture des salles de spectacle et en coulisses, ça s'active. Ce ne sont plus des répétitions, mais des générales qui sont orchestrées avant la grande première. Angèle Châtelier a pu assister à celle du spectacle La Nuit des Rois de Laurence Équilbé et Antonin Baudry, spectacle qui se jouera à la Scène musicale à Paris.
Dans les couloirs de la Scène musicale, les chanteurs se chauffent la voix. Les musiciens accordent leurs instruments. Cette répétition du spectacle La Nuit des Rois, sorte de thriller politique autour de ballades de Schumann, est la dernière avant de retrouver le public pour deux représentations. Laurence Équilbé, la chef d'orchestre, savoure.
C'est vrai que le fait qu'on se soit tellement arrêté pendant longtemps, tout d'un coup reprendre le rythme à fond, c'était quelque chose, il fallait prendre un peu de vitamine. C'est vraiment une joie intense.
Même s'il y aura à peine trois fois plus de spectateurs que de musiciens. Sur scène, ils sont environ 75 et joueront devant seulement 250 personnes. Mais ces deux dates, c'est surtout pour marquer le coup de la réouverture. Peu importe les contraintes, nous dit le metteur en scène, Antonin Baudry.
Certains choristes ont un masque un peu distrait sur scène, mais voilà, je crois qu'on vit les potes qu'on vit et que ça fait partie des choses. J'avais la conviction qu'on allait jouer et que c'était vivant. Et je suis très content parce qu'on a eu raison et on va jouer.
Et le public, semble-t-il, n'attendait que ça. Une fois la date du 19 mai annoncée par le gouvernement pour lever le rideau des salles, les places pour la Nuit des Rois se sont vendues en quelques jours.
La Nuit des Rois à découvrir demain et jeudi à la Scène musicale. Les représentations se joueront à 18h30 pour respecter le couvre-feu. Il reste encore quelques places.
À bon entendeur. Il y a ceux qui iront au théâtre demain ou au cinéma et ceux qui iront profiter de la réouverture des terrasses. On en a vu beaucoup se monter ces derniers jours pour accueillir un maximum de clients.
La jauge de 50% à respecter a poussé de nombreux restaurateurs à installer des terrasses provisoires parce que la question de la rentabilité se pose. Certains restaurateurs ont choisi de ne pas rouvrir, mais pour Laurent Tournier, président de l'UMI 33, même s'il y a des bémols, il faut y aller pour relancer la machine.
Ce premier signe d'ouverture des terrasses, on le prend avec le sourire, même si derrière, il y a quelques bémols. Il y a simplement 40% des restaurateurs qui ont une terrasse. Sur ces 40%, il y en a un certain nombre, alors difficilement quantifiable, qui ne vont pas ouvrir. Parce qu'effectivement, soit les terrasses sont beaucoup trop petites et remettre un modèle économique avec le personnel, la marchandise à commander, avec une météo qui peut être un peu capricieuse, on peut entendre que ce ne soit pas les manières dont on a envie de reprendre l'activité. Pour certains, même sachant ça, même économiquement pas viable, ou en tous les cas plus compliqué, ils vont quand même prendre le parti de réouvrir pour retrouver un peu leur clientèle, pour remettre un petit peu la machine en marche. Chacun voit en fonction de son établissement s'il a la possibilité de le faire. Mais c'est vrai que le mot d'ordre, c'est allez, reprenons un petit peu le chemin de nos entreprises, montrons à nos clients qu'on est en ordre de marche. Et pour ceux qui peuvent le faire en tous les cas, faisons-le.
Laurent Tournier, le président de l'UMI 33 au micro Europe 1 de Stéphane Place.
Et à J-1 de ses premières libertés retrouvées, on se pose forcément cette question, où en est l'épidémie ?
Et surtout, existe-t-il un risque de rebond cet été avec le déconfinement, Victor Dolande ?
Oui, d'abord, il faut voir le verre à moitié plein. Tous les indicateurs sont au vert, avec un taux d'incidence de 140 au niveau national. L'épidémie recule bel et bien. Dans certains départements, comme le Gers, la Charente-Maritime ou la Corse, il y a même moins de 50 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Dans les hôpitaux, la pression diminue également, avec de moins en moins de patients Covid en réanimation. Mais attention, prévient Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il ne faut pas crier victoire trop vite.
Il va falloir raison garder, parce que l'épidémie n'est pas terminée, qu'on va déconfiner à un taux de malades hospitalisés plus important que les deux derniers déconfinements et surtout qu'on a un véritable challenge qui est de poursuivre cette dynamique d'accélération de la vaccination qui est le seul remède pour sortir durablement des différentes vagues successives qu'on a rencontrées.
Selon lui, il faut profiter de ce recul de l'épidémie pour multiplier les spots publicitaires favorables à la vaccination, inciter les jeunes et pourquoi pas ouvrir la vaccination à tous avant le 15 juin. Le coronavirus nous offre un répit, abonde un épidémiologiste. Il faut en profiter pour prendre une longueur d'avance et amplifier la vaccination.
Victor Dolande pour Europe 1.
5h35, l'ONU se réunit une nouvelle fois aujourd'hui à huis clos pour évoquer la situation à Gaza.
Les bombardements israéliens ont repris de plus belle hier après une première semaine de conflit particulièrement sanglante. Le Hamas, de son côté, multiplie les tirs de roquettes, plus de 3000 en une semaine. Des roquettes qui se heurtent au dôme de fer israélien, un système de défense qui intercepte plus de 95% des tirs palestiniens. Et si le Hamas persiste, Jean-Sébastien Soldaini, ce n'est pas uniquement pour des raisons militaires.
À sa façon, le Hamas pousse Israël à dépenser sans compter. Chaque tir du dôme de fer, c'est 50 000 dollars. Depuis une semaine, le système a donc coûté plus de 150 millions de dollars. Mais Qatar Abou Diab, spécialiste de la région à l'université Paris Sud, voit une autre raison. Le calcul du Hamas dépasse le simple cadre économique. Ces tirs de barrage sont avant tout politiques.
C'est un bras de fer pour les leaderships palestiniens à l'intérieur, pour montrer que Hamas est derrière des Palestiniens, soit à Jérusalem, soit à Gaza, pour embarrasser Mahmoud Abbas, oui.
Mahmoud Abbas et son mouvement, le Fatah, passent ainsi pour incapables de défendre la cause palestinienne. L'enjeu de ces tirs, c'est aussi une question d'influence régionale. L'armement du Hamas est fourni et financé en grande partie par l'Iran, grand ennemi d'Israël. Chaque départ de roquette est en quelque sorte signé Téhéran.
Jean-Sébastien Soldaini.
Il vous reste 2 jours si vous avez opté pour la version papier pour remplir votre déclaration d'impôt. Journée spéciale impôt aujourd'hui sur Europe 1 en partenariat avec l'Ordre des experts comptables et Le Parisien aujourd'hui en France.
À l'occasion de répondre aux questions des auditeurs et de les guider dans leur démarche, soit au 3921, soit sur europe1.fr. Souvent pré-rempli, la déclaration de revenus est de plus en plus automatique. Alors certes, c'est pratique, Aurélien Fleureau, mais attention tout de même, il faut rester vigilant.
Oui, cette déclaration automatique est un réel gain de temps, mais uniquement si vous n'avez pas connu de changement majeur en 2020. Il s'agit d'une validation tacite d'informations connues par l'administration fiscale, à savoir votre situation de famille, vos revenus ou encore les dépenses liées à l'emploi d'un salarié à domicile, uniquement si elles sont payées via CESU ou via Page Emploi. Toutes ces informations sont alors complétées par une estimation du montant de l'impôt que vous devez. Attention en revanche, si vous avez effectué des dépenses qui donnent droit à des crédits d'impôt, là elles ne vont pas figurer dans cette déclaration automatique. Il faudra donc ajouter les dons, les frais de garde d'enfants ou d'emploi d'un salarié à domicile. Si vous êtes concerné par cette automaticité, vous devez avoir reçu un mail ou un courrier selon votre mode de déclaration de l'an dernier. Et si c'est votre cas, vous n'avez rien d'autre à faire que de vérifier l'exactitude des informations pré-remplies. Là aussi, soyez vigilants. Si vous avez validé un chiffre erroné fourni par l'administration fiscale, vous serez tenu pour responsable. Il faudra alors rectifier l'erreur sans risque de sanction.
Aurélien Fleureau, et si vous avez besoin d'aide donc pour votre déclaration, toute la journée, des experts comptables vous répondent au 3921 et on décortique pour vous toutes les nouveautés de la déclaration de cette année avec mon invité, le président des experts comptables d'Île-de-France. Ce sera à 6h40.
C'est une petite révolution dans le monde des médias. TF1 et M6 s'apprêtent à fusionner pour former un géant de la télévision. Une opération qui ne devrait toutefois pas aboutir avant la fin 2022 à cause des règles contre la concentration des médias. Dans les faits, Bouygues, la maison mère de TF1, prendrait le contrôle du nouveau groupe avec 30% des parts. C'est l'ancien patron d'M6, Nicolas de Taverneau, qui en serait le PDG.
Un mot de football, Didier Deschamps va dévoiler la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro.
Il l'annoncera ce soir dans les journaux de TF1 et M6 aux alentours de 20h20 et il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. Une réunion est prévue ce matin pour les derniers arbitrages. Début de l'Euro 2021 le 11 juin. Les Bleus feront leur entrée dans la compétition le 15 face à l'Allemagne.
Enfin, c'est un véritable changement pour le monde du sport. La Fédération française de rugby va autoriser des sportifs transgenres à participer à des compétitions officielles.
L'annonce a été faite hier à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est évidemment une grande avancée pour la première joueuse de rugby transgenre. Alexia Serenis joue en Elite 1, l'équivalent de la première division.
C'est une excellente nouvelle. Moi, c'est ma 5e année dans le rugby féminin et ça peut faire avancer notre lutte. Enfin, ça permet de déconstruire tous les préjugés que l'on peut avoir sur les femmes trans parce qu'évidemment, c'est pas parce que j'ai eu un corps développé par la testostérone hier qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité. Lors de l'adolescence, on construit un corps puissant, physique, costaud. Mais dès lors, on prend un traitement hormonal. Tout est remis en question. J'ai perdu beaucoup de force. J'ai perdu beaucoup de vitesse. Donc, je pense que cette décision, c'est une avancée majeure. Et j'espère qu'à l'avenir, ça sera un bel exemple pour les autres fédérations pour nous inclure dans tous les sports.
Alexia Serenis, la joueuse de rugby transgenre au micro Europe 1 de Nicolas Feldman.
Merci, c'était le journal d'Émilie Dez, il est 5h40. Place aux courses avec vous Thierry Léger, quels sont vos pronostics?
C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se disputera ce quintet, un handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 5 ayant déclaré forfait. Déjà lauréate d'un quintet similaire, le 14 mars à Compiègne, Jupira, le numéro 1, sera ma préférée. Certes, elle n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante, le 3 avril à Saint-Cloud, mais ce jour-là, après avoir musardé à l'arrière du peloton, sa fin de course n'est vraiment pas passée inaperçue et annonciatrice d'une très grande performance dès cet après-midi. On lui opposera Nice to See You, le numéro 2, le doyen de ce quintet qui, du haut de ses 8 ans, est toujours aussi performant. 29 quintets courus, 3 victoires et 8 fois dans les 5 premiers, un taux de réussite qui lui confère ici une réelle chance de conclure une nouvelle fois à l'arrivée. Derrière, je vous recommande les numéros 8 Turania, en regain de forme, 11 Argiron, désormais idéalement placé au poids, et 12 Sur ma vie, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec. Enfin, les numéros 4 Shamsabad, 7 Champy Charme et 9 Wood City compléteront ma sélection. Mon pronostic, As 2, 8, 11, 12, 4, 7 et 9.
Merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Théo Manval sur Europe 1.
Et on part dans le Finistère pour rejoindre notre premier invité ce matin. Bonjour Jérôme Tréhorel.
Bonjour.
Directeur du Festival des Vieilles Charrues, dont l'édition 2021 se tiendra bien du 8 au 18 juillet prochain. Édition un peu différente forcément avec les règles sanitaires imposées. Au lieu des 4 jours complets de concert, vous avez choisi d'assurer 10 soirées dans une scénographie que vous venez nous révéler. Ce matin, vous allez revoir vos installations sur la prairie de Kerempuil.
Absolument. Donc à situation exceptionnelle, et bien format et formule exceptionnelle. On avait effectivement annoncé transformer le festival et non pas l'adapter, hein, mais créer carrément une nouvelle formule qu'on espère éphémère, mais en tout cas qui sera complètement inédite. On va la faire vivre sur le site des Vieilles Charrues, mais un site qu'on a complètement changé, qu'on a complètement réadapté. Tout sera nouveau sur le site, l'emplacement de la scène elle-même, les zones de restauration, de bar, les entrées, les parkings. Le but du jeu, c'était effectivement d'essayer d'imaginer un nouvel écrin en utilisant l'ensemble du site du festival qui est très joli, qui est magnifique, et puis d'adapter, d'inventer aussi ce site en fonction des conditions et des règles de sanitaires, et finalement de faire de ces contraintes eh bien une force et surtout beaucoup de surprises pour les festivaliers qu'on a hâte de retrouver dans quelques semaines.
Alors pour ceux qui ont l'habitude de cette plaine justement, de ces multiples scènes, là il n'y en aura plus qu'une seule, hein, je crois.
Absolument, on aura un espace scénique dans lequel on aura bien évidemment une scène et puis un parterre avec à peu près 2500 chaises et puis 3 blocs de gradins pour faire une sorte un peu d'arène devant cette scène. Et cette scène, la grande nouveauté cette année, pour la première fois, elle sera devant le château à l'intérieur du site du festival.
Magnifique. Ce sera donc 10 soirées publiques assis devant le château de Kerempuil avec 5000 personnes à chaque fois. On sera obligé de rester assis sur sa chaise ou sur son gradin toute la soirée, ou on pourra se déhancher un petit peu quand même?
Alors, on ne sera pas attaché à sa chaise. Effectivement, ce sera un peu de la manière dont on vit, pour ceux qui connaissent les concerts en salle, hein, lors des tournées traditionnelles. La moitié des jauges sont en assis. Les gens sont debout devant leur chaise à applaudir ou danser. Ce sera la même chose l'été prochain au Charrues. On a fait le choix de rester sur ce format de 5000 assis parce que les règles se sont un peu assouplies. On peut augmenter les jauges ou on peut même, pour ceux qui le souhaitent, être en debout sur des limitations de 4 mètres carrés. Nous, on a voulu rester sur cette formule pour sécuriser l'organisation, hein, parce que c'est un vrai défi d'avoir non pas adapté mais inventé un nouveau festival en quelques semaines, hein, depuis le mois de février. Et on veut surtout pas fragiliser notre organisation. Dans quelques semaines, on va monter le site et ouvrir les portes. Donc il faut qu'on assoie un peu cette organisation pour accueillir le mieux possible, comme on essaye de le faire chaque année, les spectateurs.
Avant de revenir justement sur cette organisation, simplement, public assis, c'est la condition pour qu'il n'y ait pas de distanciation obligatoire. Vous parliez des 4 mètres carrés quand le public est debout. Bon, on va jouer un petit peu là-dessus. Si je comprends bien, il faudra quand même un pass sanitaire pour venir aux Vieilles Charrues cet été.
Alors oui, l'information qui a été donnée il y a quelques semaines maintenant, c'est que pour venir sur ce type d'événement, il faudra un pass sanitaire. Un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test PCR positif de plus de 15 jours. Ou la vaccination complète. Ce passe-là va se généraliser, va se mettre en place dès le mois de juin. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt un sésame pour nous, festivaliers et organisateurs. Ça va surtout permettre d'éviter d'avoir des protocoles complémentaires à l'intérieur du site et permettre justement aux festivaliers de déambuler entre les concerts plus facilement dans les zones de vie qu'on aura imaginées, et notamment une zone de restauration et de bar aussi dédiée dans un parc qui est juste à côté de la Seine pour aller se faire une pause et se restaurer.
Vous avez maintenu le festival, les concerts, les bars et restaurants, donc c'est pas le cas de tout le monde. Les Eurocaennes de Belfort ou encore Solidays sont annulés cet été. J'imagine que c'est pas neutre quand même financièrement de passer d'environ 250 000 spectateurs sur 4 jours à 5 fois moins, même si c'est étalé sur 10 soirées. Comment vous faites pour tenir financièrement?
Alors c'est effectivement pas du tout le même projet et le même format de festival. Donc forcément, on a repensé un peu le modèle une fois qu'on a calibré un peu le modèle économique du festival. Faut savoir que les Vieilles Charrues, c'est un festival 100% associatif qui a zéro subvention et qu'on vit grâce au public et à peu près 200 entreprises partenaires et mécènes qui nous soutiennent. Là, on a regardé d'abord ce que nous permettaient les recettes potentielles donc de billetterie, c'est en gros et des partenaires autour de 200 000 euros par soir. On a fait x10. Après, on a essayé de construire ce modèle en fonction de l'argent qu'on pouvait disposer et dépenser, même si on sait que l'État qui nous accompagnera aussi pour arriver à l'équilibre. Maintenant, ça a été possible aussi et surtout grâce aux efforts et au soutien de tous ceux qui font le festival, que ce soit les artistes, les prestataires, les fournisseurs et les sponsors, pour nous permettre d'équilibrer. Pourquoi ? Parce que on a une équipe de salariés permanents qui est calibrée pour organiser un gros festival. C'est 14 permanents.
14 personnes.
Permanents, on n'a pas besoin pour un festival à 5000. Donc, grâce au soutien et de l'État, des collectivités et puis des partenaires, des artistes, etc., on a pu organiser, de toute façon, on voulait organiser et s'adapter. On l'avait annoncé dès la fin de l'année parce qu'on en avait envie, besoin et même un devoir vis-à-vis du territoire du Centre-Bretagne pour qui l'impact économique, culturel et social est important. Puis aussi pour nos collègues qui complètent l'équipe. Là, je parle de 14, mais c'est 700 personnes qui bossent directement pour les charrues et 1500 indirectement. Mais sur le festival, c'est quasiment 1000 à 1500 intermittents. Et aussi pour soutenir nos collègues qui sont indispensables au festival, on voulait absolument célébrer les retrouvailles et ne pas revivre un été silencieux.
Voilà, il fallait être là pour le public, pour les artistes, pour les intermittents du spectacle aussi. Les Vieilles Charrues du côté de Carhaix dans le Finistère, ce sera donc sur 10 soirées du 8 au 18 juillet. Programmation dévoilée dans 3 jours. Maintenant, on espère l'entendre sur notre antenne. On n'a pas le droit à une petite avant-première quand même, Monsieur Tréhorel,
patienter. Non, il y aura des belles surprises. C'est vraiment une programmation. On est très content avec l'équipe et on est vraiment impatient de pouvoir la dévoiler parce qu'elle a l'image des charrues avec tous les styles de musique. Et on vous donne rendez-vous vendredi 21 à 8h du matin pour bien démarrer la journée avec la programmation des Vieilles Charrues.
On a hâte de l'entendre. Et pour ceux qui attendaient Céline Dion aussi l'an passé, je rappelle qu'elle reviendra dans 2 ans, à l'été 2023. Merci beaucoup Jérôme Tréhorel, directeur du Festival des Vieilles Charrues. Et rendez-vous donc vendredi 8h en fin de semaine pour la programmation. À très vite.
À bientôt.
Europe 1.
5h49, l'heure de mettre en lumière à présent celles et ceux qui font bouger la France. Je crois qu'on retourne en Bretagne avec vous, Cédric Chasseur,
ce matin. À fait, on va dans une commune plongée dans le noir, direction Sens de Bretagne, une ville qui a fait le choix de ne plus allumer la lumière la nuit.
A tout de suite.
Europe 1.
L'essentiel de l'actualité ce matin est la naissance annoncée d'un géant de la télévision. TF1 va racheter M6. Les deux groupes sont entrés en négociation exclusive pour aboutir à une fusion de leurs activités. L'opération pourrait aboutir fin 2022, mais elle devra d'abord être validée par l'autorité de la concurrence. À J-1 des réouvertures des terrasses, cinémas et théâtres, Olivier Véran veut rassurer. Le masque ne sera bientôt plus obligatoire en extérieur, dit le ministre de la Santé, à condition que la circulation du virus continue de baisser. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau en urgence aujourd'hui, alors que le conflit entre Israël et le Hamas entre dans sa 2e semaine. Le président américain Joe Biden annonce soutenir un cessez-le-feu. Et puis Didier Deschamps va dévoiler ce soir sa liste de 26 joueurs retenus pour l'Euro de foot. Une surprise, Benzema n'est peut-être pas à exclure selon plusieurs journaux ce matin. Verdict attendu ce soir, peu après 20h.
Écoutez Le Monde Changer avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1. Ce matin, Cédric Chasseur, l'initiative d'une commune d'Ille-et-Vilaine en Bretagne.
Oui, et si vous nous écoutez du côté de Sens de Bretagne, entre Rennes et Fougères, faites l'expérience en direct. Ouvrez les volets, regardez par la fenêtre en direction des éclairages publics. Normalement, vous constaterez qu'ils sont éteints. Ce n'est pas une ampoule qui a grillé, ce n'est pas la municipalité qui a oublié de payer la facture d'électricité. Non, c'est une démarche volontaire de la commune qui a décidé de ne plus allumer la lumière dans ses rues. Une expérience qui va durer jusqu'au 31 août.
Et alors pourquoi un tel choix ?
Eh bien c'est une décision écologique d'abord. Sens de Bretagne s'engage contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre. La commune a décidé de participer à l'opération Tram Noir. Plusieurs villes en France ont rejoint le mouvement. Vous pouvez d'ailleurs, sur le site de l'Office français pour la biodiversité, voir la carte de ceux qui se sont engagés dans cette voie. Il faut savoir que la lumière des systèmes d'éclairage public peut désorienter les oiseaux ou les insectes la nuit, ou perturber aussi le cycle de vie de certains végétaux. Mmh. Et cette démarche vise justement à rétablir un espace de vie nocturne plus respectueux de la faune et de la flore. Et puis ce n'est pas le seul bénéfice pour la mairie de Sens de Bretagne qui va évidemment faire des économies. Et Dieu sait que les élus, avec la crise sanitaire, cherchent par tous les moyens à équilibrer leur budget. En restant dans le noir jusqu'au 31 août prochain, la commune bretonne va mécaniquement faire baisser sa facture énergétique.
Donc extinction totale, hein, pas juste entre 23h et 5h comme on le voit parfois. Ça va durer jusqu'au 31 août et après ?
Eh bien après, on va rentrer dans une période où les jours vont raccourcir, il fera nuit de plus en plus tôt. Sens de Bretagne va donc rallumer ses éclairages publics, mais jusqu'à 22h seulement. Après, ce sera le retour de la nuit noire.
On se doutait pour les oiseaux, les animaux, je ne savais pas que ça avait un impact aussi sur la flore. Cédric Chasseur, vous partagez avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. La France bouge aussi sur le web. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Alors Théo, est-ce que vous avez du mal à choisir votre tenue le matin ?
Ça m'arrive. Bon, là, on s'habille un peu dans le noir hein, quand on arrive en matinale, on va pas se mentir.
Ou peut-être le plat que vous allez prendre au restaurant demain soir pour la réouverture.
C'est ça.
Parce que j'ai une solution pour vous. Hein. C'est un nouveau réseau social qui va permettre à vos nombreux fans sur les réseaux, à vos followers, de choisir à votre place.
Extrêmement nombreux.
Ça s'appelle New. Et le concept est simple, bien qu'un peu angoissant. Il se résume en une phrase. Laissez vos abonnés décider pour vous. Alors comment ça marche ? Eh bien c'est simple.
J'ai peur.
Un influenceur poste une vidéo un peu sur le modèle de TikTok. Hein. Il pose une question et propose deux choix de réponse. Les abonnés moyennant $5 peuvent voter et décider de la vie de leur idole. Hein. Je vous donne un exemple cité par la BBC. Brandon, un jeune écrivain canadien, il utilise New pour s'habiller, choisir ce qu'il va manger, mais aussi pour le titre de son prochain roman et même le prénom des personnages. Hein. Toute sa vie personnelle et professionnelle est régie par New. C'est comme si TikTok avait rencontré une émission de télé-réalité et qu'ils avaient eu un bébé, explique une experte des réseaux sociaux. Ça fait rêver, hein, n'est-ce pas ?
Le pull rouge ou le pull bleu. Qu'est-ce qui peut bien accepter que sa vie soit régie comme ça par un réseau social ?
Eh bien, plus de monde qu'on ne le croit. Hein. En même pas 2 mois d'existence, l'application a déjà séduit une centaine d'influenceurs. Pour eux, l'intérêt est évident, alors que sur une plateforme classique, il faut des milliers de vues pour être rémunéré. Sur New, le moindre vote vous rapporte déjà $5, hein, ça va vite. Et puis la liste des investisseurs a de quoi faire pâlir n'importe quel créateur de start-up, le patron de PayPal, Snapchat et même Will Smith, hein, des gens qui se trompent rarement dans leurs investissements. Ce monde où vos abonnés décident de vos vies, hein, ça pourrait être le pitch d'un film à gros budget, un Truman Show 2.0.
Exactement.
Pourquoi pas avec Will Smith d'ailleurs, hein, mais ça risque surtout d'être une réalité plus vite qu'on ne l'imagine.
Effectivement. Merci beaucoup Martin Lange, merci Cédric Chasseur. À tout à l'heure. À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours avec On de la Traconte. Et aujourd'hui, les folies fermières, l'histoire de David Comet, un agriculteur du Tarn qui, pour sauver son exploitation familiale, a ouvert en 2015 le premier cabaret à la ferme. Le récit dans On de la Traconte à 14h, c'est à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr. Il est 5h56 sur Europe 1, l'heure de s'intéresser à notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez, on parlait éclairage tout à l'heure, tiens, de la première communauté énergétique, des personnes qui se regroupent pour produire leur propre énergie.
Concrètement, c'est ça. Une communauté énergétique, c'est un ensemble de particuliers, d'associations et de collectivités territoriales qui investissent ensemble dans des moyens d'énergie renouvelable. En France, 11 000 foyers sont dans l'une de ces communautés. L'idée de base, c'est d'installer des panneaux solaires, par exemple, sur plusieurs toitures privées et publiques. On utilise alors l'énergie produite ou on la revend collectivement pour amortir la facture énergétique des membres. Et ce matin, je vous parle d'un vrai changement de cap avec la start-up Beoga qui vient de lancer le premier circuit court de l'énergie en France qui concerne tout un village dans le Gard. Les foyers se partagent l'énergie que chacun d'eux produit.
Donc ça veut dire que l'énergie produite ne passe pas du tout par le réseau national. Comment ils font ?
Eh bien, on sait que l'énergie se stocke mal. Elle doit être consommée en temps réel. Il faut toujours faire correspondre les quantités demandées et les quantités produites pour éviter de gaspiller. Dans les communautés énergétiques, les producteurs devaient jusqu'ici revendre leur surplus d'énergie et l'injecter dans le réseau de distribution générale d'électricité. Mais en récupérant les données de consommation et de production de tous les membres d'un quartier ou d'un village en temps réel, les nouveaux compteurs utilisés par Beoga permettent à un algorithme de redistribuer le surplus d'énergie d'un foyer vers un autre qui en manque. Et quand il y a un surplus général de production d'électricité dans toute la communauté, eh bien l'algorithme renvoie l'énergie vers des voitures électriques qui servent en fait de batterie puisqu'on peut les charger et les décharger.
Et alors ces innovations appliquées par Beoga, elles vont peut-être venir révolutionner toute notre production d'énergie alors ?
C'est tout à fait possible. Les compteurs intelligents et les algorithmes étaient le dernier obstacle technique pour que des communautés puissent produire une énergie renouvelable et contrôlée localement. De quoi donner un coup de boost à un mouvement qui décolle doucement en France. Au-delà de Beoga dans le Gard, on compte aussi le projet Grésy 21 en Isère et celui d'énergie citoyenne à Grenoble. Sans compter sur le financement de coopératives de production d'énergie renouvelable par énergie partagée à l'échelle nationale. L'énergie sera probablement demain partout en circulation. Circuit court, ce qui, d'un point de vue environnemental, changerait totalement la donne.
Eh bien, merci Fanny Agostini pour cette découverte, la communauté énergétique. Merci Fanny, on vous retrouve demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil. Il est presque 6h en ce mardi 18 mai. Et c'est une journée spéciale argent, impôts. Ce matin sur Europe 1, on vous aide à remplir votre déclaration plus que deux jours si vous optez pour la version papier, un petit peu plus si vous la faites en ligne. Et pas mal de changements cette année avec la situation liée à la pandémie. Télétravail, heures supplémentaires. Toute la journée, des experts comptables vous répondent sur Europe 1 en 39-21. Et le patron des experts comptables d'Île-de-France, Laurent Benoudiz, sera avec nous à 6h40. Jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous emmènera au Chili pour un exercice de démocratie inédite, aux États-Unis où le port du masque continue de poser question, et enfin au Canada où on va parler recensement. Enfin, comme tous les jours, notre respiration musicale. Il y a 20 ans, ils trouvaient le punk conformiste. Ils ont décidé de se consacrer entièrement au blues teinté de rock. Le duo Black Keys dans la partition d'Amblin Roche, ce sera à 6h25. Mais avant ça, Laurent Cabrol, un point sur la météo de ce mardi.
On ne change pas grand-chose, hein, figurez-vous. Nous allons vivre encore une journée presque automnale. Avec dans le sud-ouest, le massif central et la région Rhône-Alpes, des pluies, surtout cet après-midi. Ce sont des pluies assez continues d'ailleurs. Sur le bassin méditerranéen, un ciel très brumeux, beaucoup moins agréable qu'hier, avec des vents de 70 km/h. Et puis ailleurs, Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, région parisienne, Le Sens, Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté. Le fameux mariage entre les averses, les orages, les éclaircies. En deuxième partie de journée, ils seront légion, même si ce matin ce sera un petit peu plus calme. Les éclaircies, quand même, elles seront majoritaires sur le Pas-de-Calais. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire de bon. Les températures maximales, 14 à Sedan, 16 à Caen, 17 à Paris et Lyon, 21 à Marseille, 22 à Bastia et 25 à Nice. Vous voyez que dans le sud, elles ne sont pas trop mauvaises, mais ailleurs, c'est entre 14 et 17.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7.